Vous écoutez présentement l'émission L'épreuve des faits sur les ondes de CFIM en compagnie de Stéphane Arsenault. Exceptionnellement aujourd'hui, je reçois présentement en studio Philippe Pesant-Bellemare et Florence Champagne-Amel. Bienvenue à vous deux.
Merci.
Merci Stéphane.
Alors on va revenir, vous avez assisté tous les deux mardi soir au conseil municipal. Mm-hmm. On est revenu un peu avec le maire Antonin Valiquette hier sur cette séance, mais il y a beaucoup de matériel.
Ouais.
Et les Madelinos s'intéressent de plus en plus à ces fameuses séances du conseil municipal, soit par leur présence physique ou le nombre de vues donc puisqu'ils sont diffusés sur Internet. Et donc, on va prendre la peine de revenir et de parler des sujets qui ont été abordés lors de cette séance.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, mardi soir, c'était environ 150 personnes qui s'étaient déplacées à la mairie. Ça avait un peu diminué vers la fin du conseil, mais quand même, 150 personnes, un 9 juillet, c'est une belle journée. C'est,
oui.
On ne savait pas trop, nous, à quoi s'attendre en salle de nouvelles en se disant, va-t-il y avoir beaucoup de monde à soir? Est-ce que la mobilisation populaire contre la passe archipel et le parc régional, ça allait
mois,
continuer,
oui.
C'est ça. Donc, force est de constater qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent aux affaires municipales, ce qui est, je vais faire un petit aparté, à mon sens, une bonne chose que les gens s'intéressent à ce qui se passe dans leur gouvernement de proximité aussi.
C'est mais... très positif, Raphaël. Lapierre l'abordait ce matin là, dans son intervention de 8h35, ouais. L'effet positif de s'intéresser à la chose municipale. Donc, s'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est bien ça.
Et c'est d'ailleurs ce qui m'a frappé. Moi, c'était mon premier conseil municipal mm-hmm. aux Îles-de-la-Madeleine comme journaliste stagiaire et j'ai été frappée justement de voir l'engagement des gens. La salle était remplie. C'est sûr que ça a diminué, comme tu l'as mentionné, à la deuxième période de questions aussi. Il y avait un peu moins de gens, mais quand même, on sentait que les gens voulaient être informés et voulaient redemander des comptes aussi à la municipalité. Donc, on l'a vraiment senti au courant du conseil.
Effectivement, puis on mentionnerait quand même que la mairesse de Grosse-Île, Joy Davies, était absente encore une fois, mais était remplacée par sa mairesse suppléante, Nancy Clark. Tous les autres élus étaient présents. Et d'ailleurs, on le sait, hein, il y a 3 sièges vacants présentement
oui.
au conseil. À la question d'un citoyen, le maire et président de la communauté maritime, Antonin Valiquette, a d'ailleurs indiqué qu'il n'y avait pas vraiment de marge de manœuvre là, pour que des conseillers ou conseillères s'absentent en ce moment des séances municipales. Parce que, bon, en cas de démission supplémentaire, même, il pourrait y avoir une administration provisoire de la Commission municipale du Québec. Mais bon, c'est peu probable parce qu'on sait qu'il y a des élections partielles qui s'en viennent le 8 septembre pour combler les sièges vacants.
Mais on peut rassurer les citoyens, il y a quand même quorum. Donc, on peut prendre des décisions au niveau du conseil avec le conseil actuel.
Exact, mais il ne faut pas que personne soit malade.
Et je me demandais justement, moi, c'est mon premier conseil, mais les 3 postes vacants, est-ce que ça a changé la donne au niveau du conseil? Comment ça s'est déroulé par rapport aux autres?
C'est certain que ce qui est différent, moi, que je peux observer dans les séances publiques, moi qui est un habitué des séances du conseil municipal, normalement, c'est les conseillers qui font les propositions de résolution. Et là, le maire Valiquette en a pris un peu sous sa gouverne. Donc, c'est-à-dire, il y a cette dynamique-là qui a un peu changé. Mais évidemment, les grands débats politiques, on le sait, ne se font pas en séance publique du conseil. Hein. C'est dans les séances de plénière où est-ce que là, les conseillers à huis clos vont discuter des dossiers, choisir des résolutions adoptées et on s'imagine trouver des compromis ou des consensus sur ces questions-là. Et donc, c'est parfois ramené par certains citoyens qui se posent la question comment ça se fait qu'on ne voit pas les conseillers s'opposer, se chicaner ou pas être d'accord. Parce que quand vient le temps de la séance publique, ces décisions-là souvent sont déjà prises en plénière.
Maintenant, il y a des gens qui sont présentés au micro demander à nouveau qu'on fasse disparaître ces fameux règlements concernant le parc régional éclaté et la passe archipel.
Oui, effectivement. Au total, il y a eu 10 interventions à la période de questions de la communauté maritime et 8 interventions à celle de la municipalité. De tout ça, il y a 4 interventions qui ont clairement demandé l'abrogation de ces règlements-là liés à la passe archipel. Et plus largement, effectivement, il y avait beaucoup de questions et de préoccupations qui ont été exprimées liées à cette redevance et au projet de parc régional éclaté. Donc, on reste encore avec une domination de ce dossier-là, si on veut, sur les périodes de questions. Les élus, de leur côté, répètent qu'ils ont l'intention de consulter à nouveau la communauté avant d'aller plus loin dans ces projets-là, mais ça ne semble pas convaincre tout le monde. Même si on dit qu'on va faire une consultation, il y a certains citoyens qui ne semblent pas avoir confiance dans cette affirmation-là, qui répètent et qui réitèrent qu'une abrogation, c'est préférable, qu'on ne veut pas retourner en consultation, tout ça. Ils sont convaincus de leur côté qu'une forte majorité de la population des îles qui est contre ces projets-là. Ça ne semble pas nécessairement être être un consensus si clair que ça quand on regarde la composition, mettons, des gens qui étaient au conseil mardi soir. Parce que sur les 150 personnes à peu près qui étaient présentes, on peut dire qu'il y en a la moitié qui appuyaient et qui applaudissaient fort quand venait le temps de demander l'abrogation de ces projets-là de règlement. Et il y avait à peu près l'autre moitié de la salle qui était moins enthousiaste là-dessus ou même carrément qui soutenait les élus et les démarches municipales quand elles étaient présentées. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il y avait la moitié du monde du côté de la municipalité dans ce dossier-là. Je pense que c'est plus nuancé que ça. Mais quand même, il n'y a pas de consensus clair à mon avis.
Oui, et ça a été soulevé par plusieurs personnes qui ont pris le micro aussi que c'était pas nécessairement des gens qui étaient pour ou contre qui se présentaient au conseil, mais aussi des gens qui voulaient s'informer et comprendre les enjeux. Donc ça aussi, c'était soulevé par la période de questions.
Donc, je pense que ce qu'on peut dire là, quand on regarde un peu le déroulement des derniers conseils municipaux là, depuis l'annonce de la passe archipel et tout ça, il y a eu un mouvement de masse au mois de mai, entre autres, là, contre la passe archipel. Là, vraiment, il y a eu une forte mobilisation. Je ne pense pas nécessairement que cette mobilisation-là c'est amoindri. Je pense que ces gens-là restent mobilisés, mais il y a peut-être un contrepoids qui se fait de citoyens qui disent non, nous, on n'est pas nécessairement d'accord avec ces affirmations-là.
Et on avait senti le même genre de mouvement lors de la séance extraordinaire d'information au centre.
Le 16 mai, effectivement, le 16 mai dernier. Puis on le rappelle, le parc régional éclaté, c'est un dossier de longue haleine. C'est un dossier qui est sur la table depuis 2009, lorsqu'il y avait eu l'adoption d'un nouveau schéma d'aménagement. Et d'ailleurs, il y a eu un échange à ce sujet-là assez corsé entre un ancien conseiller municipal, donc qui est Gérard Verdier, et la table des élus. Donc, M. Verdier fait partie là, de ces citoyens qui demandent l'abrogation de la passe archipel et qui s'opposent avec véhémence au projet
de
parc régional.
Alors qu'il était là au début du processus.
Bien, c'est ce qui est ressorti, en fait, parce qu'en guise de réponse à une de ces interventions, le conseiller de Fatima, Roger Chevary, a présenté un procès-verbal de l'ancien conseil d'agglomération, donc avant la MRC, avant la communauté maritime, qui datait d'avril 2009 et qui faisait état justement de l'adoption de ce fameux schéma d'aménagement-là révisé dans lequel figurait la création du parc régional, dans un parc régional qui couvrait le milieu du nerf. C'était vraiment comme ça que c'était présenté. Et l'objectif de ce parc régional-là, c'était de protéger donc, les territoires du nerf, mais aussi d'assurer l'encadrement des activités qui s'y déroulent. Donc la résolution à l'époque avait été unanime, avait été proposée par M. Rosaire Arsenault et appuyée par M. Verdier lui-même. Donc là, ça a fait quelques flamèches entre M. Verdier et la table des élus. Et ça, je te cacherai pas, Stéphane, que ça rappelle un peu l'échange qu'il y avait eu entre Antonin Valiquette et l'ex-président de l'OTR, Jacky Poirier, lors de la séance d'information du 16 mai dernier. On est aussi revenu dans les périodes de questions sur ce fameux contrôle accordé à Annie Fernandez, donc consultante en communication, dont la somme s'élèverait là, à un peu plus de 11 000 $ pour, on le rappelle, des frais de formation en communication pour le maire Valiquette, mais aussi pour les honoraires de Mme Fernandez en lien avec l'animation de la séance d'information du 16 mai. Donc, on le rappelle, la séance d'information sur la passe archipel et le parc régional éclaté. Il y avait des citoyens, donc, qui ont encore une fois exprimé en période de questions que c'était trop cher payé, que c'était pas nécessaire, que vraiment qui questionnaient cette dépense-là de la part de la municipalité. Ce à quoi, bon, le maire Valiquette réitère que c'était une dépense qui était légitime, qui s'inscrit dans le budget annuel de formation et d'honoraires professionnels de la municipalité et il prenait comme exemple, au même titre par exemple que des frais professionnels pour des frais juridiques ou d'ingénierie, quoi que ce soit.
Il a pris la peine aussi de ventiler cette facture-là de cette consultante. C'était pas seulement pour cette fameuse soirée.
Non, c'est ça. Et ça avait été expliqué dans les conseils municipaux précédents aussi, mais ça a été répété encore. C'était aussi pour des frais de formation. Lui, dans sa fonction, considérait qu'il avait besoin d'avoir une certaine formation pour mieux communiquer, entre autres, dans les périodes de questions. Bon, évidemment, ça a été un peu tourné en dérision par des gens qui étaient présents qui font allusion au fait que M. Valiquette a peut-être la difficulté dans ses interactions avec les citoyens dans les périodes de questions. Je ne sais pas, toi, Florence, est-ce que tu avais observé quelque chose par rapport à ces échanges-là dans la période
de
questions?
Oui, mais j'ai senti que dès la première intervention, en fait, il y avait une dynamique où on redemandait des comptes et je sentais que M. Valiquette était... Tu sais, c'était pas la première fois là, qu'on lui redemandait des comptes et je sentais peut-être un épuisement, une fatigue du côté de la municipalité de toujours devoir rendre des comptes. En même temps, le conseil municipal
est là pour ça.
Et là pour ça,
mais
ouais,
souvent,
là pour
ça. De répéter toujours, d'avoir toujours la même question et d'avoir souvent les mêmes réponses.
Je pense effectivement. Oui, j'avais ressenti ça également.
Puis bon, en rafale, Stéphane, oui. Si on peut dire peut-être quelques résolutions et projets qui cheminent via le conseil municipal. Donc, il y a eu la confirmation, comme je le disais plus tôt, de l'élection partielle aussi pour Cap-aux-Meules, l'île d'entrée, lors de, en fait, le nouveau siège laissé vacant par M. Richard Leblanc la semaine dernière, lors de l'élection partielle du 8 septembre. Aussi, il y a des changements qui ont été apportés au zonage et au plan d'urbanisme dans le secteur de Cap-aux-Meules afin de permettre la construction d'habitations multifamiliales. Là, on parle ici du chemin Julien en arrière de la SAQ, oui. Et aussi du chemin du Gros Cap dans les environs du poste de police. Aussi, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie a été formellement adopté. Ça fait suite à la consultation publique qui avait été tenue à la fin du mois de juin. Un contrat de gré à gré qui est accordé à la Fédération québécoise des municipalités pour des services d'ingénierie en lien avec l'atténuation des risques liés à l'érosion et la submersion côtière dans le secteur de la Martinique. Donc, la municipalité ici alloue une somme de 5 millions de dollars à ce contrat-là à partir d'une enveloppe qui était déjà octroyée par le ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est de l'argent de Québec de ce côté-ci. Un contrat de gré à gré aussi de 12 000 $ avec la firme d'archéologie Artefacts Urbains, donc pour avoir une banque d'heures pour un projet de priorisation des sites archéologiques et des sites à potentiel archéologique sur l'archipel. Puis enfin aussi, ce fameux projet de décarbonation des infrastructures municipales en lien avec l'Union des municipalités du Québec, dont on a parlé avec le maire Valiquette hier sur nos ondes. Je vous invite à aller réécouter en fait l'entrevue qui est disponible sur le site cfm.ca.
Ce qu'on retient, c'est que quand même le conseil municipal et les élus municipaux et l'appareil municipal n'est pas paralysé. On continue au-delà de cette fameuse passe archipel et de ce parc à continuer donc à rendre les services et
faire avancer les dossiers.
Faire avancer les dossiers de la municipalité.
C'est ce qu'on peut observer effectivement.
Florence Champagne-Hamel, Philippe Pesant-Bellemare, merci beaucoup de votre présence ce midi à l'émission L'Épreuve des faits. Et puis, on se retrouve très bientôt sur les ondes du son de la mer.
Merci, Stéphane.
Merci.